Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Voilà, on vient de le chanter. Peut-être que l'un ou l'autre a un petit peu dû le chanter avec les dents serrées, parce que quand il réfléchit à sa semaine, semaine de galère, semaine difficile. Puis on est là le dimanche, et puis ouais, toute ma vie, tu as été si bon. Alors on va le chanter avec les autres. Puis quelque part, il faut qu'on reprenne courage pour la galère de la semaine qui vient, hein. Ben oui. Non, on va. Je crois que le Seigneur ce matin veut nous montrer qu'on a autre chose à vivre que galère sur galère sur galère. Mais il faut qu'on reconnaisse quand même que, ben voilà, dans nos vies, il y a des périodes de lassitude, des périodes de découragement, des périodes même de déprime. Parfois, face à une situation qu'on peut vivre, parfois c'est même un découragement total. Une espèce de situation qui vient plomber notre élan, qui plombe notre joie. Puis parfois, c'est le poids de toutes ces circonstances qui s'installent sur nos vies, et il n'y a plus d'élan, il n'y a plus rien. On s'est donné à fond pour en arriver à ça. Hein, ça vous est déjà arrivé de faire une espèce de bilan comme ça, mais voilà, j'ai tout fait, et puis je suis arrivé à ça. Et la Bible nous parle de plusieurs personnes, des personnes de référence, qui ont vécu le découragement. Un tel découragement que, pour certaines de ces personnes, elles en sont arrivées à dire, mais c'est assez, Seigneur, c'est assez, mon Dieu, reprends ma vie, j'en peux plus, là. Je vais en citer deux, trois, quelques-uns, là, qu'on connaît bien. Il y a Job, évidemment. Job, un homme riche, droit, influent. Lui, il a tout perdu, ses biens, sa santé, sa famille. Et pourquoi? Pourquoi il cherchait à comprendre? Et il en a été fatigué de ça. Il n'en pouvait plus à un moment donné. Il y a aussi eu Jérémie. Jérémie, le prophète, qui à un moment donné dit, à la fin du chapitre 20, « Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel, si c'est pour connaître le malheur et la douleur, et pour finir ma vie dans la honte ?» Il s'est donné entièrement pour le Seigneur, et voilà où il en est à un moment donné. Et il y a Moïse, lui a eu de quoi être découragé en conduisant le peuple d'Israël, le nombre de fois où il a été découragé, où il a dû s'arrêter devant Dieu pour lui dire « Mais j'ai besoin de toi, de ta force. » Il y en a un pour qui on a un petit peu moins de compassion, c'est Jonas. Lui, à un moment donné, il dit « Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. » Mais lui, c'est son ego qui l'a amené à ça. C'est vraiment son ego qui l'a amené dans cette situation. Il obéit à un moment donné à Dieu. Alors, il a déjà dû un petit peu faire des efforts pour, mais voilà, il obéit à Dieu. Et il est dans Ninive. Il proclame « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Et les gens de Ninive changent de comportement. Ils se repentent devant Dieu. Et Dieu revient sur sa décision. Et la réaction de Jonas, c'est « J'en étais sûr. » C'est d'ailleurs pour ça que je ne voulais pas le faire. Maintenant, j'ai l'air de quoi, moi, franchement? Je proclame des choses et elles ne se réalisent pas. Puis c'est qui doit assumer ça? C'est moi. Et ça amène Jonas à partir dans une déprime pas possible. Alors, on n'a cité que des hommes, là, mais ça arrive aussi aux femmes. Il y a Rebecca, à la fin de Genèse 27, elle dit à un moment donné, « Je suis dégoûtée de la vie. » Elle le dit à cause de sa famille. « Si ça se passe ainsi, alors à quoi me sert la vie ?» Donc, on voit que ça arrive à tout le monde à un moment donné. Ça peut nous arriver aussi, comme c'est arrivé à ces gens-là. Et ce matin, on va faire un bout de chemin avec une autre personne qui a vécu le découragement aussi jusqu'à vouloir en mourir. C'est Élie. Ouais. On va retrouver Élie à un moment où, sous l'impulsion d'Akab et de Jézabel, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu pour adorer Baal. Et le peuple d'Israël vient de vivre 3 ans de sécheresse qui avait été annoncée par Élie. Juste en passant, Baal, c'est le dieu de la pluie, le dieu des récoltes. Il faut dire que Dieu va vraiment parler au travers de ça. Il veut vraiment parler au travers de ça. Et À un moment donné, Dieu, après 3 ans, il appelle Élie et lui dit, mais retourne vers Akab. Et c'est là qu'il y aura cette fameuse confrontation entre les 450 prophètes de Baal et Élie. 2 autels qui sont construits. D'un côté, un autel qui est préparé en l'honneur du dieu Baal et un autre autel en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de Dieu. Et les prophètes de Baal font appel à leur dieu, mais il ne se passe rien. Et quand c'est autour d'Élie de faire appel à son dieu, au dieu vivant, le feu descend du ciel et consume toute l'offrande qui a été préparée par Élie. Et à ce moment-là, tout le peuple se range du côté d'Élie et s'empare des prophètes de Baal, pour qui d'ailleurs ça va se terminer très mal. Après ça, Élie a juste le temps d'annoncer à Akab que la pluie va tomber, qu'elle arrive. Voilà un petit peu le cadre, là où on en est. Et pour la suite, on va prendre dans 1 Roi 19, on va prendre un petit peu verset par verset pour avancer dans ce que Élie a vécu. Et je crois qu'on va pouvoir en tirer aussi des enseignements pour notre propre vie. On est sur cette terre en tant que représentant de Dieu, témoin de Jésus. C'est une tâche qui peut être lourde, qui peut parfois être lourde pour nous. Il y a des luttes, il y a des combats, il y a des victoires, mais il y a aussi des moments où c'est plutôt la défaite qui est là, des échecs. En tout cas, à nos propres yeux. 1 Roi 19, à partir du premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Élie, il vient de remporter une énorme bataille. Dieu a répondu à sa prière, Dieu a agi au vu de tout le monde. Et cette bataille, il l'a aussi eu, il a aussi gagné face à Jézabel, qui représente quelque part tout un système qui a été mis en place en Israël, puis dont elle est la tête. Alors ces temps, on parle souvent de contre-offensive, hein, quand on parle de guerre, il y a offensive, contre-offensive, et quelque part, là il y a la contre-offensive de Jézabel. Et cette contre-offensive, c'est l'intimidation. Et c'est exactement comme ça que le diable fonctionne. Il fonctionne tellement souvent comme ça dans nos vies aussi. On démarre à fond dans un projet. On sait qu'on est à la bonne place. On sait que c'est Dieu qui nous a conduits là-dedans. On peut démarrer à fond même dans la foi. On bouscule des montagnes, il y a plein de choses qui se passent. On vit des victoires. Et puis tout d'un coup, il y a l'intimidation qui est là et qui nous barre la route. Cette intimidation qui nous dit, mais si tu persévères là, comme ça, si tu continues comme ça, tu vas perdre des choses. Ta vie relationnelle, ben, elle sera ruinée. Tes amis que tu as actuellement, avec qui tu es bien, tu vas les perdre. Tu vas avoir les ridicules face à eux. Puis il y a le fameux retour de manivelle dont on parle souvent, hein. Ce retour de manivelle, quelque part, quand on fait plus confiance dans les capacités du diable à provoquer ces retours de manivelle, plutôt que faire confiance à Dieu dans sa capacité de nous garder, de nous emmener plus loin, au travers de nos difficultés, et qui reste là, à nos côtés. La suite du verset 3. Élie arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda. Et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Élie qui est dans l'euphorie, en un rien de temps, il est dans un désert. Il n'y a pas d'entre-deux là, c'est d'une place à l'autre directement. Et il passe toute une journée à marcher physiquement dans le désert. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui devait se passer dans sa tête en marchant dans ce désert? Il laisse son serviteur dans la dernière ville avant le désert, et puis il y va. Mais tout ça, ça sert à quoi? Dieu s'est montré là, il a montré sa puissance, puis ça ne change rien. Mais ça sert à quoi que je continue de dépenser mon énergie? Puis au final, le peuple n'a pas changé, les idoles restent là. Et puis même si on me retrouve, je suis un homme mort, autant franchement, autant arrêter tout de suite les frais, Seigneur, j'en peux plus là, j'en peux plus. On a été appelé à être témoin du Seigneur, à le servir. Alors on n'est peut-être pas appelé comme Élie à être devant des gouvernements, devant des responsables de nations, mais dans notre travail ou ailleurs, appelé à servir le Seigneur. Et parfois on reçoit des coups, et peut-être tu as reçu des coups, peut-être tu as été blessé. Parfois c'est aussi dû à nos propres erreurs, il faut bien qu'on le reconnaisse. Mais les conséquences, la réalité, elle est là. Tu as perdu ta fraîcheur, tu as perdu ton enthousiasme, tu es découragé, tu as perdu confiance. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Et on se pose cette question, mais est-ce que le Seigneur nous a appelés à le servir pour que ça se retourne contre nous à la fin, au final? On peut en arriver à se poser des questions comme ça, où on est complètement à côté de ce qu'on sait, au fond de nous, être la volonté de Dieu pour notre vie. Élie se coucha, à partir du verset 5, et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Élie regarda, et il vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ?» Notre pauvre Élie devait vraiment être malin. Je pense vraiment que ce qu'il a vécu, ça l'a... Spirituellement, ça l'a assommé complètement. Il n'est même plus capable de voir de quelle manière Dieu s'occupe de lui. Moi, je suis surpris quand il est en plein désert, il voit un gâteau cuit, une cruche d'eau, il mange, il boit et il dort. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il n'y a plus de force, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout en lui. Et pourtant, cette nourriture que l'ange de Dieu vient lui apporter, elle sera capable de lui donner la force d'errer pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert. Dieu est avec lui. Il ne le voit pas, mais Dieu est avec lui. Dieu est à ses côtés. Il arrive finalement à Horeb, la montagne de Dieu. Alors là, je vous partage plutôt ma réflexion. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé pour lui, mais je ne sais pas si Horeb, c'était vraiment son but, s'il avait vraiment ça, cette montagne comme but. Parce qu'il aurait pu y arriver en quelques jours, en tout cas pas en 40 jours, bien moins que ça. J'imagine plutôt Élie qui se lève, qui part dans ce désert, qui marche, il se laisse conduire par ses pensées, ses réflexions, il continue de tourner tout ça dans sa tête. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi de risquer ma vie? ce peuple qui a vécu ça puis qui n'a pas changé. Non, mais ce n'est pas possible. Et puis la façon dont je suis traité, ce n'est pas normal. Puis au final, c'est encore pire qu'avant. Moi, je pense qu'il a dû continuer de ruminer tout ça. Quand on voit comment il a réagi plus tard, on le verra. Mais ce n'est pas parce qu'Élie vit ces moments de déprime, de solitude, qu'il est seul. Dieu veille sur lui, Dieu veille sur sa vie. Dans son désert, dans ses 40 jours de désert, Dieu veille sur lui, sur sa vie. Et Élie s'arrête enfin dans une grotte à Horeb. Et là, Dieu se révèle à lui. Enfin, il a arrêté. Enfin, il peut entendre. Que fais-tu ici, Élie ? S'il avait été très spirituel, Élie lui aurait répondu, mais j'ai besoin que tu me parles comme tu as parlé à Moïse sur cette montagne. J'ai besoin de te rencontrer. Mais sa réponse, elle est tout autre, puis elle est très terre à terre. Elle est quelque part la conséquence de toutes ses réflexions, de tout ce qu'il a ruminé pendant des jours et des jours. Et on le lit à partir du verset 10. Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Dans sa façon de répondre à Dieu, Élie, quelque part, il a besoin de mettre Dieu au courant de ce qu'il est en train de vivre. Ah Dieu, enfin t'es là, enfin t'es là. Mais voilà ce qui se passe, regarde ce qui se passe. Alors que Dieu est à ses côtés tout au long de son périple. Mais à un moment donné, il lui dit, mais regarde ce qui se passe. Et on peut un peu être comme lui. Quand il dit, j'ai déployé tout mon zèle. Parfois on peut dire, mais je me suis donné à fond, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Les Israélites ont abandonné ton alliance. Et on peut aussi dire parfois, mais je suis entouré de gens sur lesquels je ne peux pas compter. Je suis resté, moi, seul. Ils m'ont tous laissé tomber. Et ils cherchent à m'enlever la vie. Je ne sais plus comment m'en sortir. Je ne sais plus. Je ne peux plus rien faire. Il n'y a plus de solution. Ma vie est en danger. Élie, à ce moment-là, il a vraiment besoin de redécouvrir ou de découvrir qui est vraiment Dieu pour lui, qui est vraiment son Dieu. Et Dieu va se révéler à Élie dans la dimension dont Élie a besoin à ce moment-là. Un texte qu'on connaît bien à partir du verset 11 à 13. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Est-ce qu'on arrive à s'imaginer le vent qui déchire les montagnes, qui brise les rochers? L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie ? La même question qui revient. Et la réponse d'Élie, la même réponse d'Élie, mot pour mot, celle qu'il a donnée à Dieu pour la première fois. Je me dis, là, il y a une relation qui s'est faite. Il y a un contact qui a été créé. Et Dieu pourrait dire, ouais, c'est vrai, mon pauvre Élie. C'est vrai, là, tu as été maltraité, je comprends. Et puis on peut imaginer plein de choses. Mais la réponse de Dieu est tout autre. Il ne se laisse pas prendre. Dieu ne se laisse pas prendre par les émotions. Rien de tout ça. La réponse à la déprime d'Élie, à la déprime de cet homme, c'est la présence de Dieu. Cet homme qui a pris des coups, il a simplement besoin de redécouvrir cette présence de Dieu qui veut simplement vivre un cœur à cœur avec lui. Pour être consolé, il n'a pas besoin de voir la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, il l'a vue à l'œuvre. Il l'a vue à l'œuvre quand les 450 prophètes de Baal ont perdu la vie. Il a vu la puissance de Dieu. Et d'autres fois encore, il la connaît. Mais là, il doit connaître sa présence, son intimité. Et c'est cette seule présence de Dieu auprès d'Élie qui va le relever. Ce n'est pas les paroles de consolation ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est la présence de Dieu, cette proximité avec Dieu. Et j'ai été vraiment surpris par les seuls mots de Dieu en réponse à la plainte d'Élie. C'est un peu plus loin dans le texte. Il lui dit, « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert, jusqu'à Damas. » Ouais, c'est ce que Dieu lui dit. Élie, il est dans le désert, mais il va devoir continuer son chemin dans le désert. Mais ce ne sera plus le même désert pour Élie. Ce ne sera plus le même désert. Et ce ne sera plus non plus le même Élie qui va être dans ce désert. Maintenant, Élie sait qu'il y a la présence de Dieu à ses côtés. Et Dieu le fait traverser ce désert parce qu'il a quelque chose pour lui à l'autre bout du désert, du côté de Damas. On a tous expérimenté, hein. On n'a pas besoin de vivre une expérience de l'intensité d'Élie pour parfois se retrouver à errer dans le désert, parfois être perdu, plus trop savoir où on en est. Je vais terminer tout à l'heure par un petit témoignage personnel, mais j'aimerais quand même soulever un point que je trouve important. Dans sa déprime, Élie se plaignait. Il se plaignait qu'il était le seul à rester fidèle à Dieu. Et ça m'a interpellé, cette réaction de Élie. Parce que si vous lisez un peu plus loin dans le texte, Dieu fait comprendre, mais tout en douceur à Élie, qu'en fait, il n'est pas seul. Il y a 7000 hommes qui, comme lui, n'ont pas plié le genou devant Baal dans le peuple. Élie, lui, il n'en avait aucune idée. Il était sûr qu'il était le seul. Élie, c'était quelqu'un de solitaire. Il était solitaire avant l'épreuve, solitaire dans son fonctionnement, et il s'est retrouvé seul dans l'épreuve. Et ce que je vais vous partager de mon petit témoignage, c'est aussi pour souligner l'importance de l'Église, l'importance d'avoir des frères et sœurs autour de nous, dans ces moments-là, ces moments de désert. C'est là que l'Église prend toute son importance. C'est ce que je vais vous raconter, ça s'est passé au mois de février, donc ce n'est pas si vieux que ça. En février, j'ai vécu 10 jours qui étaient vraiment 10 jours difficiles, au niveau du travail surtout. Hein. Ça allait dans tous les sens. Il y avait des chantiers qui étaient mal organisés. Pour ceux qui travaillent dans la construction, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Les chantiers mal organisés, c'était compliqué. Il n'y a rien qui jouait, il n'y a rien qui allait comme ça devait. Et puis, c'était des clients, mais insupportables. Ça peut arriver. Pourtant, quand il y a quelque chose de... Ils me disent toujours, mon patron, quand tu as quelque chose de social à faire auprès d'un client, c'est André qu'on envoie, parce qu'avec lui, ça passe. Mais là, il n'y avait plus rien, hein, c'était fini. J'étais devenu grognon, j'en pouvais plus. Et j'en suis arrivé à dire à mes collègues, mais mon travail, ça m'amène à quoi? Ça sert à quoi que de faire un boulot comme ça? On pourrait faire tellement d'autres choses qui sont bien plus utiles que ça, franchement. J'ai été comme ça jusqu'à un mardi, un troisième mardi du mois. Le troisième mardi de février. C'est en une journée, Dieu m'a totalement retourné. Je dis parce que c'est un troisième mardi de février, parce que le troisième mardi de chaque mois, le matin à 6h, il y a un temps de prière. Un temps de prière pour les hommes qui est souvent affiché ici, à 6h15. Et ce matin-là, Philippe a commencé par nous partager un texte qu'il avait à cœur dans les psaumes, psaume 51, versets 13 et 14, qui dit « Ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et moi, j'étais là, incapable de voir quoi que ce soit de positif dans la journée qui allait venir. Et j'ai simplement pu partager en quelques mots ce que je vivais, parce que c'est vrai que c'est un quart d'heure, hein, le temps de prière. Donc, il ne faut pas prendre trop de temps à partager ce qu'on vit. Mais Dieu agit dans ces temps-là. Et moi, dans la suite de ce temps de prière, j'ai pris ce verset vraiment avec moi. Ça a été quelque chose qui m'a parlé. Je me suis dit, mais Seigneur, là, tu veux me parler. Il faut que je prenne ce verset avec moi pour cette journée. Puis la matinée a commencé. Puis à un moment donné, je reçois un WhatsApp. Un WhatsApp de... C'était Jean-Pierre, c'était toi. Qui, lui, m'envoie un petit texte. Il me dit, écoute, j'ai reçu le psaume 43 pour toi. Alors, je vais vous le transmettre en quelques mots-clés qui m'ont touché. Mais c'est un psaume qui est en trois étapes, que j'ai vraiment vécu en trois étapes. La première qui dit « Rends-moi justice, défends ma cause, délivre-moi, envoie ta lumière et ta vérité. » Quelque part, c'est le premier psaume qu'on a lu tout à l'heure qui est dit un petit peu différemment. Mais il y a cette prise de conscience que, oui, Seigneur, rends-moi justice, à toi, j'ai besoin de toi, défends ma cause, délivre-moi. Et la suite du psaume, c'est un engagement. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse. Alors j'ai vraiment pris ça aussi pour moi, j'ai dit ok, j'irai. Et la fin du psaume dit, pourquoi être abattu mon âme et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Je ne sais pas si vous vivez ces moments un petit peu de la même manière que moi, ces moments de déprime, ces moments difficiles. On se dit, mais j'ai besoin de retourner auprès de Dieu, on le sait. J'ai besoin de retourner auprès du Seigneur. Et puis, on se dit, ok, je vais mettre de la louange, je vais me mettre dans une ambiance de louange, ça va me faire du bien. Quelque part, on est un peu comme Élie. On va se coucher, on dort. Après le bon repas, peut-être, parfois pas. Mais au fond, il n'y a rien qui change. On se réveille et puis on est les mêmes. Mais pour que Dieu puisse reprendre la place qui est la sienne dans notre vie, dans ma vie, il a fallu que je cesse d'écouter mon âme. Mais que moi, je lui parle. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. J'ai dû prendre position à un moment donné. Et on doit parfois devoir prendre position dans nos vies. Il faut qu'on le fasse. Simplement attendre que les choses passent, ça ne va pas changer grand-chose. La journée a continué. Et puis, Radio Air, vous connaissez. J'écoute assez régulièrement Radio Air quand je peux, quand il n'y a pas d'autres personnes qui ont mis Couleur 3 ou je ne sais quelle radio à fond sur le chantier. Mais j'aime bien mettre Radio Air. Et il y a un moment donné dans la journée où il y a le verset à mâchonner. Vous l'avez déjà entendu, ce verset à mâchonner. C'est un verset biblique qui est pris, qui est parlé, mais dans plusieurs traductions différentes. Et là, ce jour-là, c'était le psaume 27, verset 14. Et il dit ceci, ce psaume 27. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi. » Et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Notre version, compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage. Oui, compte sur le Seigneur. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'Éternel. Compte sur le Seigneur, ressaisis-toi, reprends courage. Oui, compte patiemment sur le Seigneur. Ce verset qui passait là, à ce moment-là, j'ai vraiment vécu cette présence de Dieu. Ce un à un avec lui. Juste sa présence qui restaure, qui transforme nos vies. Et à partir de ce moment-là, je savais que ces déprimes étaient loin. Je savais que c'était bon. Et j'ai continué ma journée. Le soir, on avait la cellule. On a vécu une belle cellule. C'était vraiment sympa. Mais à la fin de la soirée, juste tout à la fin, Josquin avait encore à cœur de partager un verset. Psaume 27 encore. Le premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? C'était comme une proclamation pour sceller toute la journée. Alors pour moi, la réalité, elle restait la même, un peu comme pour Élie. Il a fallu aller terminer ces chantiers mal organisés. Il a fallu continuer de côtoyer ces personnes qui n'étaient pas forcément agréables à côtoyer. Mais j'avais une toute autre attitude de cœur. Et j'ai vécu ces fins de chantier tellement différemment. Et ça a été aussi l'occasion de partager aussi dans mon travail avec certaines personnes ce que je vis. Et je crois que c'est ce que Dieu fait. Si on lui fait confiance, si on place notre confiance en lui, il ouvre des portes, il nous emmène plus loin. Il nous sort de nos déserts, mais on doit sortir du désert. Alors ce matin, peut-être que l'un ou l'autre d'entre nous peut se sentir seul, peut se sentir perdu. Tu te dis peut-être que tu as besoin de voir Dieu agir, tu as besoin de vivre cette présence de Dieu. Et ce matin, moi je crois vraiment que le Seigneur veut se révéler. Il veut se révéler comme il l'a fait pour Élie. Pas en ce Dieu fort, puissant qui vient te mettre à terre, mais ce Dieu plein d'amour. Ce Dieu qui veut manifester sa présence à tes côtés. Et je crois que ce matin, il veut juste que tu acceptes d'entrer dans sa présence. Que tu te laisses toucher par sa présence. Rappelez-vous, dimanche passé, ce que Florence nous disait. Il y a un combat qui concerne mon salut. Ce combat, il a été gagné par Jésus à la croix. J'ai besoin, tu as besoin de retourner à cette croix. C'est là qu'on retrouve notre dignité. C'est là qu'on bénéficie du combat qui s'est passé en notre faveur. Le combat. Paul, combien de fois, il a dit à Timothée, mais combat, le bon combat. Et pour lui-même, il dit à un moment donné, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Mais j'ai dû combattre aussi. Il y a aussi eu des luttes. Il y a un livre de la Bible qui parle tellement bien et d'une façon poétique de l'amour que l'époux a pour son épouse. L'amour de Jésus pour son Église. L'Église, c'est l'Église, c'est nous, mais c'est moi, c'est toi, c'est nous personnellement. C'est chacun d'entre nous. Et cette déclaration d'amour de Jésus, cette déclaration d'amour qui est aussi dans tout ce livre du Cantique des Cantiques, cette relation, le Seigneur veut vraiment la vivre avec nous. Il désire tellement la vivre, cette relation intime avec chacun d'entre nous. Et ce matin, on va entendre un chant qui est un résumé de ce Cantique des Cantiques. Et j'aimerais que tu puisses ce matin le recevoir comme un appel de Jésus. Un appel de Jésus qui vient te chercher là où tu es arrêté, là où tu en es, là où tu te trouves ce matin, qui vient te rencontrer dans ton désir. Cet appel de Jésus qui vient te dire, mais que fais-tu ici ? Autrement dit, ta place, ce n'est pas d'être arrêté dans ce désert. On va continuer la route ensemble. Alors, ne cherche pas 15 000 excuses ce matin. Ne cherche pas à justifier là où tu en es. Réponds juste au cri de son cœur qui te dit « Viens, mon cœur t'appelle. Viens, mon cœur t'appelle. » On reprend la route ensemble. Je vais laisser Marianne, Jean-Pierre et Tania nous chanter ce chant. Et vraiment, laissez-vous toucher par le Seigneur pendant ce chant.
Je t'aimerai.